Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour notre petit rituel de questions-réponses. Charles,
Question, sûrement réponse.
réponse, on va essayer.
On va essayer, mais c'est.
Alors, avant toute chose, je voulais vous présenter ce petit livre, ce petit manuel qui s'appelle Construire ta liberté financière aux éditions Erol, d'un jeune homme qui s'appelle Alexandre Lacharme, et qui est une sorte de manuel pour vous apprendre justement à acquérir votre autonomie financière. Je vous avais présenté, pour ceux qui sont à l'UDE, donc à l'Université de l'Épargne, celui de Mounir, qui était très bien aussi. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir un petit manuel qui vous explique un petit peu comment dessiner votre feuille de route, comment avoir tenir son PEA, comment véritablement tenir un ratio d'endettement, des mensualités, ainsi de suite, c'est bien fait et ça permet d'avoir des idées forces pour un petit peu mettre de l'ordre dans ses finances si vraiment on débute. Voilà, c'était un petit point avant de commencer notre session pratique de questions-réponses. Alors, en ce moment, Charles, on a fait la semaine dernière une émission sur l'Inde et beaucoup de gens en ce moment, nous compris, ont les yeux tournés vers le Japon parce que hier, le directeur, je crois, de la Banque centrale ou alors le
Ah,
ministre de
le
l'économie,
numéro 2, je sais pas quoi.
voilà, a dit que c'était horrible, que la Grèce, que le Japon est dans une situation similaire à celle de la Grèce, et patati et patata. Alors, je ne sais pas si c'est histoire de faire patienter Monsieur Trump, qui peut-être s'énerve un petit peu sur le fait que la parité des pouvoirs d'achat soit là où elle est. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu peux dire sur cette élocution que tu as dû voir passer?
Alors, j'ai toujours expliqué, j'espère que vous l'avez bien retenu, qu'il y avait deux sortes de dettes, celles que vous avez à l'intérieur de votre famille, par exemple. Si par exemple je t'emprunte de l'argent, bon, moi ma dette augmente, toi tes revenus augmentent, à condition que je te paye bien sûr, mais en consolidé, la dette de la famille n'augmente pas. Tu vois, c'est-à-dire que c'est bon. Et à l'intérieur des pays, c'est pareil. Si tu as des vieux qui prêtent aux jeunes, ben, il se passe rien. C'est-à-dire que c'est un transfert de richesse des jeunes aux vieux ou des vieux aux jeunes. Une dette, donc, budgétaire n'a aucune importance si elle est souscrite, pardon, par les citoyens. Et où je crois que la dette du Japon a été souscrite à 98% par les citoyens japonais. Donc, quand on me dit que la dette du Japon est de 400% du PIB, je dis c'est du grand n'importe quoi, parce que en consolidé, il n'y a pas de dette, quoi,
Bah,
donc.
si tu veux, là, c'était la question que posait Dimitri, et il disait donc en conséquence, si le Japon venait à faire défaut, quelles en seraient les conséquences pour le reste du monde? Mais le Japon,
Il va pas faire défaut sur sa propre dette qu'il peut imprimer lui-même, c'est complètement idiot.
on n'est pas du tout dans la même situation que la Grèce, qui, encore une fois, rappelons-nous, ne détenait pas sa propre monnaie, a été mis dans l'euro par des circonvolutions de M. Draghi à l'époque et de Goldman Sachs, alors que comptablement,
Il n'aurait pas dû y être.
il n'aurait pas dû y être parce qu'il n'était pas à la règle des
Et toute sa
3%.
dette était vis-à-vis des banques françaises ou des banques allemandes. Donc, il était endetté dans une monnaie qu'il ne pouvait pas imprimer auprès d'investisseurs étrangers.
Tiers.
Donc, ça n'a strictement rien à voir. Donc, je me fais aucun souci pour la dette japonaise. Ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que la Banque centrale japonaise suit une politique de taux d'intérêt basse. Je ne sais pas exactement pourquoi, sans doute pour maintenir la monnaie très basse, dans l'espoir que ça. Je ne sais pas exactement quel est le but, mais en tout cas, ce n'est pas une bonne idée. Et il est évident que de plus en plus, les taux d'intérêt longs, c'est-à-dire le 10 ans et de 10 ans à 30 ans, sont en train de monter très fort parce que les gens disent ça va finir par déclencher de l'inflation. Donc je me protège,
Mais il
je
y a
fais.
déjà de l'inflation.
Il y a déjà de l'inflation, c'est aux alentours de 2%. Donc les marchés obligataires se cassent la figure, c'est parfaitement normal, mais il n'y a aucun risque, mais zéro, de faillite du Japon, mais même
Alors,
pas.
je me suis même demandé, de toi à moi, comme on sait que les Japonais, comme les pays asiatiques, ont structurellement ce besoin de sauver la face et ont un grand sens de la dignité, on l'a
Oui,
vu
c'est vrai,
pendant les
c'est vrai,
dernières
c'est vrai.
guerres, si ce n'était pas une façon assez maligne de dire à Madame Watanabe, dites donc, ça serait peut-être bien d'arrêter d'acheter des obligations d'État et de faire quelque chose pour votre pays.
On va en le pognon.
On est dans une situation dramatique, regardez, tout le monde le sait, ayez la honte
Ah,
sur votre front,
c'est pas
ayez
impossible.
la honte sur votre front,
C'est pas
vous,
impossible.
Japonais.
Donc, il est temps que vous achetiez les obligations japonaises.
Pour servir votre pays.
Si tu dis ça aux Japonais, ils vont se précipiter en
Bah,
épée.
oui,
Hein.
là, ils ont honte. quand même. Ben on vient de dire qu'ils étaient la Grèce. Moi, j'aurais honte si j'étais japonaise.
Oui, mais les Japonais, ils ont très honte très, très, très facilement. Mmh.
C'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, dis donc, là, il est malin.
Parce que c'est pas impossible. Et, en effet, c'est peut-être une façon de dire à Madame Watanabe, c'est pas impossible.
Rapatriez votre bon pognon.
Rapatriez votre bon pognon. Et en plus, vous avez gagné beaucoup d'argent à l'étranger parce que la monnaie était très basse. Ça ne va pas rester tout le temps. Donc, il est temps de le rapatrier. Comme ça, vous gagnerez plein de pognon et vous pourrez le dépenser au Japon. C'est pas impossible. Alors, j'ai toujours dit sur la parité des pouvoirs d'achat dont on mentionnait, c'est que c'est embêtant avec la parité des pouvoirs d'achat. C'est qu'on y retourne toujours, mais on sait jamais quand. Et quand on y retourne, en général, ça se passe très rapidement, puis ensuite, c'est fini. Donc, ça fait un an qu'on traîne avec ce yen qui fait rien.
Bah, il popote.
Il popote, il est là, il n'a pas bougé. Bon,
on a eu un petit coup cet été en juillet.
On a eu une petite satisfaction.
Mais là, peut-être que...
Ça va peut-être partir, mais en même temps, il est évident qu'il va falloir choisir son camp. Et qu'il va falloir que, si les monnaies asiatiques commencent à monter, comme on a déjà vu avec le dollar de Taïwan, des choses comme ça va être difficile pour le Japon de rester à la traîne sans se mettre mal avec tous les autres pays japonais en disant, dites donc, vous faites pas partie du club, hein, allez. Donc, quelque sorte, les Japonais vont être acculés à un truc difficile, c'est choisir entre les États-Unis et la Chine, mais en même temps, choisir la Chine, aujourd'hui, c'est faire plaisir aux Américains. Donc, les Japonais vont peut-être se dire, bah tiens, je sais rien, je veux pas faire de... Tout ce que je sais, c'est que cette monnaie est deux à trois écarts types sous-évaluée, donc bah, ça traîne, bon ben voilà quoi. Mais ça va péter à la hausse, c'est pas possible autrement.
Et qu'est-ce que tu penses, parce que beaucoup de gens posent la question en disant oui, mais on comprend pas très bien pourquoi on devrait jouer le Japon, parce qu'ils ont une population déclinante, et moi je me dis une population déclinante, c'est une force de travail moindre, et donc une force de travail moindre, c'est une moins grande croissance.
Alors, très bien, tout ça c'est tout à fait exact, mais ils ont la position extérieure nette la plus importante au monde. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que les Japonais investissent dans les pays étrangers pour pouvoir payer leur retraite à l'arrivée. Donc, tant qu'ils sortent des capitaux du Japon, le yen est faible. Mais à partir du moment où ils vont décider de le faire rentrer pour le prendre leur retraite, le yen va devenir fort. Parce qu'il y a tous ces capitaux qui vont rentrer pour soutenir la demande au Japon. Donc, bah pour moi, le fait qu'ils soient avec une démographie défaillante, etc., amène inéluctablement une hausse du yen. Parce que tous ces capitaux qu'ils ont à l'étranger, ils vont les faire rentrer. Ça va faire monter la monnaie. Si tu vends des dollars pour payer ta retraite au Japon, bah le yen va monter.
Mais tu n'as pas peur que la hausse du coût des taux d'intérêt empêche le service de la dette ?
Oh bon, non, tu rigoles. Quoi. D'abord, la Banque centrale peut les acheter. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, le quart des obligations japonaises sont détenues par la Banque centrale. Donc dès que les taux coincent au Japon, la Banque centrale en achète et puis ça arrête de monter. Donc... en fait, les taux sont trop bas au Japon.
L'inflation.
D'où l'inflation. Et donc, mais ça veut dire aussi, si tu veux, il y a 2-3 ans, le 10 ans japonais était à 0, mettons, et le 10 ans américain était à 2 ou à 3. Donc ça veut dire que si tu étais un japonais, t'empruntais à 0, tu te mettais de US à 3, et donc tu te faisais 3%.
C'est ce qu'ils faisaient tous,
et d'où la baisse du yen, etc. Mais à partir de maintenant... Si les taux à 10 ans japonais se rapprochent de 3 et les taux américains s'en sont pas très loin, ça devient. Est-ce que je.
Oui, dans l'arbitrage.
Dans l'arbitrage, tu te dis bah, écoute, j'ai gagné beaucoup d'argent sur ce truc-là, je le vends et je me mets maintenant directement
en yen. Sachant que l'économie américaine.
Et puis que les taux sont hauts, et puis qu'il y a le déficit budgétaire qui est monstrueux et tout, donc tu te dis bon, c'est peut-être à peine, j'ai bien gagné ma vie, je fais autre chose, quoi. Ce serait logique.
Alors, on va passer du proverbial Coca Light.
Il est là, non ?
Oui. Pour parler, donc j'ai parlé du Japon là, j'espère
du
que...
Yen.
Du yen, oui.
Du yen.
Enfin, sauf si tu as des choses à ajouter sur le Japon que...
Non.
En ce moment, c'est dans les... J'ai eu plusieurs questions et...
Il n'y a aucun risque de solvabilité au Japon. Personne n'est plus créditeur que les Japonais vis-à-vis du monde extérieur. Ils ont des positions qui sont absolument gigantesques dans les marchés obligataires américains, français, australiens. Dans les actions partout, dans les terres, ils ont bâti des usines, donc ils sont une position extérieure nette monstrueuse.
Donc il n'y a aucun risque de solvabilité. Il faut bien le dire et que vous le redonniez au Japon. Donc les gens qui vous disent le Japon va sauter, le Japon va faire faillite.
Ils prennent la dette en pourcentage du PIB, ce qui ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est combien de cette dette a été financée par l'étranger dans une monnaie que vous ne pouvez pas imprimer. Ça, c'est essentiel. Mais. Si vous voulez, le fait que Saint-Tropez et doivent, je sais pas combien à Paris en euros, on s'en fout. C'est pas
la même famille.
C'est la même famille. Ça.
Donc on va parler des USA parce que y a beaucoup de questions en ce moment. On a essayé de laisser de côté trop de discours sur les tarifs parce que, comme on le dit souvent, il faut s'extraire du bruit et essayer de rester dans ce qui paraît
Moi, sur les tarifs, sur les droits de douane, je voudrais dire un truc, si vous voulez, c'est que ça va avoir de l'impact, mais ça va être... On ne sait même pas où ils seront. Ça va être mis dans 2 ou 3 mois, puis ensuite ça va être changé, etc. Donc quelqu'un qui peut me dire, qui sait ce qui va se passer, quel va être l'impact des tarifs, c'est un plaisantin. Donc moi, je dis aux gens, écoutez, si vous voulez avoir des informations sur les tarifs et dire des bêtises, prenez votre journal habituel, quoi. Mais moi, je ne me sens pas le courage de dire quoi que ce soit d'intelligent sur ce truc-là, parce que je ne sais pas, j'ai aucune idée.
Alors, il y a des questions, alors là, qui vont nous amener sûrement à des réflexions de conspirationnistes encore, mais les globalistes de l'État profond sont prêts à tout pour reprendre le pouvoir et couler l'administration Trump avant les midterms.
Oui.
D'après vous, que pourrait-il faire au niveau financier et comment jouer le coup ou au moins nous en protéger?
Alors, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, pas du tout, je vais m'expliquer. C'est qu'il se passe des trucs qui me gêne. Curieux. Bon, vous avez l'ancien patron du FBI, celui qui avait lancé toutes les fausses poursuites contre Trump avec la Russie, tout ça, qui s'appelle James Comey, qui était le patron du FBI, il mesure 2 mètres de haut. Et il vient, la semaine dernière, il a fait paraître sur son site YouTube un machin très curieux. C'était une photo de coquillage mis sur la plage, qui montrait 86-47. Alors, 86, c'est le langage codé de la mafia, tout le monde l'a sait aux États-Unis, pour dire tu es condamné à mort. C'est une condamnation à mort. Et 47, c'est le 47e président des États-Unis, c'est-à-dire c'est Trump. Donc ce type, qui est ancien patron du FBI, un homme extrêmement éminent, disait à Trump, par ce biais, vous êtes condamné à mort.
Oui, sur l'air de ha ha ha.
Sur l'air de... Mais surtout... Après ça, j'ai entendu 2 hommes aussi, le patron du FBI à l'heure actuelle, qui s'appelle Patel, qui est d'origine indienne, et le vice-président, qui s'appelle Bongino, qui disaient tous les deux que ça faisait... Ils avaient eu un mal de chien à trouver les dossiers qui étaient enterrés partout, qui étaient cachés dans des pièces où ils n'auraient pas dû être, etc., mais qui cherchaient, qu'il y avait 180 000 personnes, je crois, au FBI, et qu'il y en avait peut-être 5 ou 10 000 qui avaient été un petit peu corrompus, et que ces gars-là avaient planqué les dossiers dans tous les sens, mais qu'ils les retrouvaient les uns après les autres, et qu'ils avaient trouvé des trucs qui étaient gravement accusatoires pour un nombre de gens très important, en même temps que l'autre mettait ça en 86-47. Donc je me suis dit, ce qui est en train de se passer, c'est que... J'en sais rien du tout, c'est l'hypothèse que je fais, qui est peut-être complètement farfelue. Je dis, dans le fond, ce qu'on commence... à subodorer, c'est que Obama, les Clinton, des gens comme ça, sont dans la seringue. Tu vois que... Et qu'on a chargé James Comey de dire, si vous appuyez sur la seringue, vous êtes mort. Je sais pas si c'est le cas, hein, mais ça me semblerait une explication logique. Et à ce moment-là, ce que demanderaient ces gars-là, c'est arrêter les poursuites. Mais Trump ne va pas arrêter parce que c'est... Pas cette fois-ci, il a déjà essayé, ils l'ont...
Et puis ceux qui sont derrière disent, une bonne fois pour toutes, on va drain the swamp.
On va drain the swamp, il y en a tout un tas, justement, tous ces gars-là...
Je ne crois pas que J.D. Vance soit...
J.D. Vance, ni Patel, ni Bongino, ni la jeune femme là que j'aime beaucoup, ni la ministère de la Justice.
Oui, qui est formidable.
L'ancien officier, là.
Oui, je connais qu'elle.
Elle est très sympathique. Et donc, il y a tous ces gens-là, je crois que donc... Alors maintenant, ça veut dire que si on fait sauter cet état profond américain, vont apparaître en pleine lumière assez rapidement tous les liens qu'avait cet état profond avec l'état profond bruxellois, en Europe. Et je ne sais pas si tu as remarqué, je sens comme une atmosphère de panique en Europe avec monsieur Starmer qui essaye de recréer, de faire rentrer l'Angleterre dans le sous la coupe.
Starmer, pardon, petit caveat, je ne sais pas si vous avez vu, moi qui suis une grande lectrice du Daily Mail, parce que c'est ce que j'ai gardé comme option depuis mon temps enfant en Angleterre. Donc le Daily Mail, c'est un gros journal de concierge. Il y avait des histoires avec un homme escorte qui l'aurait amené chez lui, qui a brûlé sa maison, dont il avait... ça défraye un peu la
chronique. Et il est ukrainien.
Le mal, l'escorte,
M. Starmer a beaucoup, beaucoup donné à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, ça commence à faire un peu désordre, ça. Donc, je veux dire, j'ai senti, par exemple, au moment des élections là-bas en Roumanie, qu'il y avait quand même un vent de panique qui soufflait, quand même. Parce qu'on faire passer un gars de 22 à 52 en un vote, c'est quand même assez remarquable. Donc, j'ai vu aussi que... Trump avait dit à Zelensky, vous viendrez jeudi.
Oui.
Et l'autre,
à Istanbul.
À Istanbul, et l'autre, il sera là. Parce que, oui. Donc, je me demande si. Allez, je vais dire un truc. Est-ce qu'on arrive à un moment de vérité où vraiment cet état profond américain va être montré? Et avec, par exemple, les liens entre Pfizer et Mme von der Leyen, qui a touché je ne sais pas combien de milliards de dollars, ou son mari, sur des trucs et tout. Donc, allez, je vais faire un truc. C'est pas impossible qu'il y ait quelque chose d'étonnant qui se passe dans le domaine de la dénonciation de l'état profond dans les semaines qui viennent. Voilà. Mais j'en sais rien du tout. Hein. Simplement, j'essaye de mettre les liens. On me dit pourquoi
un type comme
James Comey, qui est quand même l'ancien patron du FBI, etc., prend-il le risque personnel d'attaquer Trump? Parce que maintenant, il risque d'aller en tôle, lui. Donc, s'il a fait ça, c'est qu'il se dit sans doute, de toute façon, j'irai en tôle. La seule façon que j'y aille pas, c'est que je lui fasse peur. Vous savez, c'est dommage, vous avez de beaux enfants, quoi.
Et dans le même temps, on nous annonce aussi quelque chose qu'on savait tous déjà, que Joe Biden, Biden est très malade.
Et depuis très longtemps. Enfin, il a un cancer qui prend un temps fou à évoluer.
Voilà. Qui a gouverné? Et comme pour dire aussi, vous êtes gentil, papy Mougeot, vous le laissez de côté, il n'a plus rien à voir, il est malade,
oui,
et ainsi de suite.
Aussi, mais par contre...
Non, mais c'est-à-dire, là, maintenant, on ne peut plus le toucher, Biden.
On ne peut plus le toucher, on ne peut plus toucher.
On touche pas quelqu'un qui est malade d'un cancer.
Non, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que Trump a donné l'ordre de savoir qui avait utilisé la machine à signer de Biden.
Oui, parce que papy, il avait une heure par jour de... Et on le savait tous, enfin, tout le monde disait, enfin, qui gouverne. Alors, évidemment, en France, ils disent, vous ne vous rendez pas compte, c'est le président le plus puissant qu'on ait vu depuis Jimmy Carter, ou j'en sais rien.
Mais ils nous ont raconté qu'il était très compétent, alors qu'il était complètement nul, et c'est un des plus corrompus.
Non, c'est Biden, il a eu un truc, d'ailleurs, c'était repris souvent dans les séries, c'est que c'était le type qui était toujours là. Quand on disait, yo, Biden is ass, c'est-à-dire que tu te retournes, il y avait Biden. N'importe quelle inauguration, n'importe quelle foire au gras, n'importe quel serrage de pinces, il y avait Biden. C'est-à-dire le type, au bout d'un moment, il s'est imposé parce que c'était la sécotine. Tu sais, le sparadrap...
Qu'il était le sénateur du Delaware, qui est le paradis fiscal américain, donc il avait accès à tous les...
Donc il a rendu des services.
Si j'ose dire, là, tous les politiciens corrompus ont leur compte dans le Delaware, tout ça, c'était... Donc il était utile.
Voilà, mais c'était pas pour sa compétence, c'est vraiment l'homme qui... Ah, il l'a eu à la force du poignet.
Et on sait qu'ils ont détourné la famille Biden entre 25 et 50 millions de dollars, dont on a retrouvé la trace, donc c'est quand même un peu gênant.
Ouais,
le fils Biden, il n'est pas sorti d'affaire.
Alors... On te pose la question aussi, est-ce qu'il te semble que les USA vont partir dans un nouveau cycle de création monétaire? Et est-ce que c'est du coup le moment de se repositionner sur l'or pour toi?
Je crois que d'abord on n'en est jamais sorti.
De la création monétaire?
Non, de l'or.
Ah oui, de l'or.
On va juste dire il est beaucoup monté, racheter un peu plus d'actions, ce qu'on a bien fait d'ailleurs, parce que c'est un peu plus monté que l'or. Non, faut rester sur l'or, parce qu'il reste quand même la question essentielle, c'est comment ce foutu déficit budgétaire américain va être financé. Le déficit est absolument gigantesque et je sais pas, ils vont trouver le pognon. Surtout si les pays asiatiques disent, écoutez, vous êtes gentils, mais non, ou même on veut vendre des obligations qu'on a parce qu'on sait pas quoi en foutre. Donc, pour moi, la construction du portefeuille, ce qui émerge, je sais pas ce qui va monter, mais j'ai une bonne idée de ce qui va baisser. Et donc, je recherche à être pas dans ce qui va baisser, dans ce que j'appelle les contrats, c'est-à-dire les obligations, en Europe et aux États-Unis, ça j'en veux pas. Des actions de bonne qualité, vous pouvez les avoir n'importe où. Et puis de l'or, et puis voilà, quoi. Je veux dire, rien ne change. C'est encore un truc important, c'est que tous les travaux qu'on fait montrent qu'il y a 97% de bruit et 3% d'information. Donc, la tentation quand vous avez de l'argent, c'est de dire c'est important, il faut que je fasse quelque chose. Prenez l'histoire des tarifs, on donne. Tout le monde s'est excité, tout le monde a écrit. Il y a des forêts entières qui ont été abattues pour faire du papier pour lesquelles écrire des conneries.
Non mais attends, il est vrai qu'au début, quand arrivent ces histoires de droits de douane, on se dit tous, enfin moi qui viens d'une sensibilité libérale, on se dit tous, mais enfin, il est fou quoi. Depuis quand on remet des... Puis alors surtout, c'était pas on va remettre 5% non, de droits de douane, on remet 215% sur la Chine, allez 330%, enfin c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi, donc ensuite quand le marché obligataire a commencé à s'effondrer, eh ben ils ont changé de cap à toute allure. Et finalement, j'ai regardé ça et finalement, on n'a rien fait. Et donc, il y a beaucoup, dites-vous bien que 97 fois sur 100, vous regretterez de n'avoir fait quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'il va vous faire? Qu'est-ce que je sais de nouveau? Ben, pas grand-chose, que je ne sache, que je savais pas déjà depuis un an, quoi. Donc, non, ça change rien, pour l'instant je bouge pas.
On a une question qui est plus structurelle, on va dire, enfin intellectuelle dans la construction. C'est que toi, tu penses que Trump va tenter de ramener les USA à un simple État-nation.
Oui.
Et Philippe Fabry, qu'on embrasse et qu'on connaît bien depuis 15 ans maintenant, estime au contraire que l'Empire américain est aussi inéluctable que le Romain. Donc pour lui, l'Empire américain, quelque part, ne peut pas décroître et ne peut qu'être... demeurer.
Et comment ils vont le financer?
Alors attends, et c'est du reste l'analyse que j'ai pu voir de personnes qui passent ça et là en disant Trump, au contraire, renforce l'Empire américain. On n'a pas dû entendre le même discours de J.D. Vance qui clairement disait pour moi on se retire des merdenzizich. Mais visiblement, alors je me demande s'il y a une marotte aussi de la part des Européens de dire l'Empire américain avec tout ce que ça comporte, et aussi une obstruction du fait de voir que l'Asie monte. C'est-à-dire, ils veulent rester avec le visuel des anciens paradigmes.
Ben moi, quand j'étais à Prague, là où j'avais été invité à ce machin, qui est intéressant d'ailleurs, pour eux, la diplomatie, c'était les relations entre l'Europe et les États-Unis, puis c'est tout. Et je leur disais, mais attention, là, il est en train de se passer l'alliance des trois, Pékin, Moscou et Delhi, ça se passera sur la terre et plus sur la mer, donc la géopolitique est en train de changer complètement. Moi, j'ai un vieux truc, c'est quand l'or quitte un empire ou une nation, quand il s'en va, ça veut dire qu'il est plus compétitif. S'il est plus compétitif, il peut plus avoir d'armée. S'il peut plus avoir d'armée, l'empire s'écroule. Donc aujourd'hui, l'analyse que je fais, c'est que les États-Unis peuvent plus maintenir une armée pour tenir leur empire en place. Donc, ben, il est fini, quoi, c'est tout.
Il est certain que quand on voit l'ampleur de la dette américaine et le fait qu'ils doivent juguler avec ça une inflation aussi qui était galopante, c'est-à-dire
qui était galopante, et puis le
c'est
fait,
quand même pour ça, on le rappelle,
et que la
Trump,
classe moyenne américaine s'est pété la gueule.
C'est complètement atrophié. Et c'est grâce à ça que Trump a été élu, et on oublie de l'analyser, c'est qu'il a véritablement fait une campagne sur l'inflation.
Et sur le pouvoir d'achat
des classes
de la
moyennes,
classe moyenne,
des petits. Et parce qu'on a tous observé aussi ce qu'on appelle l'effet Cantillon, c'est-à-dire que quand il y a une création monétaire, en général, ça ne va qu'à ceux qui sont près du pouvoir.
Ceux qui sont proches reçoivent le premier le pognon, donc ils achètent des biens avant qu'ils aient monté. Et ceux qui sont tout en ligne, en bout de ligne, ils achètent les biens une fois qu'ils sont montés comme des fous. Ils ont pas.
Donc plus vous êtes
proche de Washington, plus vous enrichissez, et plus vous êtes dans l'Oklahoma ou n'importe où, et plus vous vous retrouvez à la...
Et cela dit, c'est aussi ce qu'on a, cet effet Cantillon, on l'a aussi observé en Europe grâce aux formidables taux bas qu'ils nous ont mis. Donc ils ont fait un QE, une impression monétaire, et deux, des taux bas, ce qui a permis à tous ceux qui avaient des biens, de les hypothéquer pour acheter plus d'immobilier. Immobilier qui est donc monté comme des gorées. Et aujourd'hui, là, je passais encore, je vois des appartements 130 mètres carrés, 2,4 millions. 130 mètres carrés, 2,4 millions, c'est quoi ce ratio?
Non, mais ça veut dire que pas 2,4 millions, c'est-à-dire qu'il faudra, je ne sais pas combien d'années, il faut qu'on ait 25 ans de salaire complet avant de pouvoir t'acheter ça, si tu es un cadre normal, quoi. Mais donc, on est arrivé à des prix...
Cette décorrélation... entre
les actifs et le salaire, c'est insensé.
C'est insensé parce que au bout d'un moment, les gens, ils veulent quand même acheter le bien dans lequel ils vivent, pas rester forcément, effectivement, locataire toute leur vie. Et c'est désespérant.
Ouais. Et quand tu es quand tu dois louer, tu te rends compte que les locations aussi sont hors de prix. Non, donc, oui. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, des analyses historiques, tout ça, que les empires... Bon, ben, l'empire anglais, il a disparu quand la Liv Sterling s'est pété la gueule. L'empire français, il a disparu quand le franc français s'est écroulé aussi. Enfin bref, il y a une relation assez forte entre la monnaie, l'or que vous avez à la maison et l'empire que vous pouvez maintenir. Donc l'analyse que je fais, c'est que les États-Unis ont plus l'argent pour maintenir leur empire. Donc ça va s'arrêter, puis c'est tout. Je vais pas chercher des trucs compliqués. Hein. C'est juste follow the money, quoi.
Alors, tu as fait une petite ouverture justement sur l'Asie et sur l'ouverture de ce dont on vous parle souvent, ce cercle de Valérie Pierris. Valérie Pierris qui, encore une fois, était le pseudo qu'une personne, qui était un professeur d'histoire géo, utilisait sur un site pour expliquer cette notion. Donc on a gardé, et le type avait comme pseudo Valérie Pierris. Voilà, donc c'est le cercle de Valérie Pierris, comme on dirait le cercle de
Champollion, laissez-moi parler de l'Égypte.
Non mais c'est... Bon. Tu as donc Waliki qui te demande, ne pensez-vous pas que l'Iran serait le talon d'Achille du triangle Moscou-Pékin-Delhi?
Ben c'est là où on voit très bien que... Aussi que ça
question
paraisse.
Intéressante.
Question très intéressante. On voit très bien que Trump est en train de pousser comme un fou pour que l'Iran sorte de ses rêves millénaristes et rejoigne le conflit des nations, le concert des nations, et essaye de... donc il faut simplement qu'ils abandonnent leur fabrication d'uranium militaire. Et d'une certaine façon, Trump est en train de s'éloigner un peu d'Israël en disant, bon, mais ça va bien les gars. Mais la vraie question, c'est... La CIA, etc., ils étaient violemment en faveur d'Israël. Et puis, ils voulaient avoir une guerre contre l'Iran parce que ça aurait fait marcher les affaires, quoi. Trump, lui, il aimerait bien que les Iraniens se calment, ce qui lui permettrait de calmer les Israéliens de l'autre côté, et puis de faire marcher son truc des accords d'Abraham, quoi.
Qui était la grande idée.
La grande idée. Donc, il doit y avoir des bagarres terribles en Iran, non, parce que là. La carte est dans les mains des Iraniens, d'ailleurs. Est-ce qu'ils retournent? Est-ce qu'ils arrêtent, abandonnent leur rêve de retour du Mahdi? Là, je ne sais plus comment ils appellent ça. Celui qui est enterré dans une grotte et qui reviendra à la fin des temps. Ou est-ce qu'ils disent, bon, ben maintenant, on va essayer de remonter le niveau de vie du peuple et puis devenir une nation comme une autre, quoi. Est-ce que je cesse de financer le terrorisme partout comme je le fais depuis 30 ou 40 ans? Ou est-ce que je redeviens l'Iran d'avant les fadas, là? L'Iran du chat. Donc je sais pas, mais en tout cas, oui, ça c'est un endroit. C'est très gênant parce que c'est l'endroit où la plupart des débouchés russes arrivent sur la mer, l'Iran. Alors juste à côté, il y a un autre port où ça pourrait arriver aussi, qui est au Pakistan. Mais enfin, c'est guère mieux. Les Pakistanais, ils sont guère plus malins que les autres. Donc, si ça arrive en Iran, dans le dernier port, là. Sera une nouvelle extraordinaire mais importante parce que ça veut dire que l'Iran accepte de redevenir une nation comme une autre. Donc, pour l'instant, c'est un talon d'Achille, mais si jamais ça sautait, ce serait absolument énorme. Ça veut dire que c'est au 1617, allez-moi me pacifier le Moyen-Orient. Et là, on pourrait réellement penser que le Moyen-Orient devient pacifié. Là, il faut acheter de l'immobilier à Beyrouth. Alors.
Oui, on va attendre 5 minutes quand même pour l'immobilier à Beyrouth.
Oui, oui, non,
on va commencer par très bison.
Si les Iraniens.
Oui, oui.
Si les Iraniens.
Alors, j'ai aussi quelques questions, malgré notre direct qu'on fera la semaine prochaine pour les personnes de l'Université de l'Épargne. J'ai pris quelques questions, dont celle de Basile Victor Pétusseau, qui te demande « Je suis un jeune mathématicien récemment diplômé et je souhaiterais savoir quel logiciel M. Gav utilise pour créer ses magnifiques graphiques. Utilise-t-il un outil indépendant des plateformes comme Trade Republic, Swissquote, S-Python, MATLAB ou un autre logiciel ?»
Alors, ce qu'on utilise, c'est Microsoft. Macrobond, qui est un outil d'analyse économique, graphique, etc., qui a été mis au point par des Suédois, qui est maintenant dans quasiment toutes les banques centrales, et qui coûte, selon que vous êtes étudiant ou pas, selon le nombre de postes que vous avez, 5 000 à 12 000 dollars par an par poste. Alors, c'est, si j'ose dire... Macrobond commence dans l'analyse économique là où Bloomberg s'arrête, c'est-à-dire l'instantané. Donc, mais vous avez des logiciels de passage pour que vous puissiez piquer des données si vous voulez, plus rapide par exemple, et les décharger sur Macrobond et travailler avec les logiciels de Macrobond. En plus, c'est un logiciel, une fois que vous avez fait un graphique, vous le mettez en... vous le sauvez dans un coin, là.
Et vous le retrouvez jamais.
Vous pouvez pas le retrouver, mais si vous avez la chance de le retrouver.
Je dis ça parce qu'à chaque fois, il me dit, mais je le retrouve plus. Bon, je vais le refaire.
Oui. Donc, je l'ai à 4-5 endroits différents. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il se remet à jour automatiquement. C'est-à-dire que quand les données brutes sont mises à jour, pof, votre graphique est mis à jour. Donc, c'est très pratique si vous voulez faire un tableau de bord avec des graphiques que vous regardez souvent. Ben, comme ça, ils sont tous mis à jour et c'est très pratique. Donc, c'est de loin le meilleur système existant, comme le disent les mathématiciens, pour faire ces graphiques, pour...
Ce qu'il y a de surtout
vous pouvez calculer, vous pouvez faire des simulations de performance, vous pouvez tout faire avec.
Alors, ce qu'il y a de surtout aussi de très notable, c'est l'accès sous-jacent à absolument toutes les données. Parce
absolument.
Que ce n'est pas le tout de tirer le graphe, c'est d'avoir aussi...
Alors, il y a toute une série de données qui sont quasiment gratuites, toutes les grandes données internationales sur
le lait, le plomb, les
actions, le cours d'action, etc. Mais si vous voulez des données plus pratiques, plus pointues sur le marché obligataire à 3 ans, 5 ans, 7 ans, vous pouvez aussi souscrire à des données... qui ne sont pas de Macrobond, qui ne sont pas des données générales, qu'ils achètent eux-mêmes, par exemple, à Reuters, et qu'ils mettent à votre disposition, mais qui sont compatibles avec les autres. Donc, c'est un outil professionnel absolument inouï. Je suis très content parce qu'au début, c'est nous qui les avons financés.
Oui, je me souviens.
C'était
au moment des Jeux Olympiques d'Albertville.
Et on les a financés, on a mis pas mal de pognon, et puis ensuite, ils ont bien vendu, et puis nous, on a gagné de l'argent, et on les a vendus. Et une banque d'affaires qui a acheté. Et on s'est dit, oulala, ce prix-là, on vend, ça ne peut pas aller plus haut. Mais si, c'était beaucoup plus
haut. C'est allé plus haut. Oui, mais tu sais, ça, c'est comme quand vous aviez vendu l'appartement à Londres, celui qui était près de King's Road, là,
oui.
Tout de suite. Il s'est vendu le premier jour. Et donc, dans ces cas-là, tu dis, j'aurais peut-être dû le mettre plus cher, j'imagine, parce que. Mais bon, vous étiez quand même content du prix.
Ben oui, et puis surtout, ça m'a permis d'acheter l'appartement à Hong Kong, donc la maison à Hong Kong.
Donc, oui, voilà, donc faut bien...
Non, il y a des moments... Non, mais c'est agaçant, quoi.
Oui, non, mais je sais. Oui. C'est comme quand tu...
Enfin, on était contents de les avoir financés, quand même.
Quand tu sors d'une position et que tu vois que le titre continue à monter, c'est énervant.
C'est très énervant. Donc oui, c'est Macrobond, vous pouvez taper leur site, etc. Alors, si vous êtes étudiant, ils ont des prêts pour les étudiants, etc. Voilà. Donc, c'est ce dont je me sers tout le temps. Et on va mettre sur le site, petit à petit...
Sur le site de l'Université d'Épargne,
on va mettre une série de graphiques qui seront mis à jour automatiquement aussi, que vous pourrez consulter comme ça.
Parce qu'il faut savoir que Charles... Donc nous, on est quatre associés, donc Charles, Léonard, Clément et moi. Et récemment, on a été rejoints... Bon, il y a la personne qui nous fait Thomas Galis, qui est un super avocat fiscaliste qui nous fait les vidéos sur la fiscalité que les gens de l'Université de l'Épargne ont pu voir, sur comment faites votre déclaration d'impôt en pratique si vous avez des différents CTO et que vous devez... comment les déclarer, comment l'optimiser fiscalement, parce que ça aussi... Et il y a plein de choses trap, il y a plein de choses à savoir. Donc ça, Thomas Galis a été d'une grande help, ça va plus, moi je parle franglais, d'une grande aide. Et Romain Métivet, avec qui Charles travaille, va nous seconder justement dans la...
Dans tout l'aspect construction de tableau de bord pour l'Université de l'Épargne. Ce sera qu'on va mettre ça, parce que l'Université de l'Épargne, pour l'instant, on suit un portefeuille, on essaie, mais vous pouvez, par exemple, vous êtes un Suisse, vous voulez faire un portefeuille permanent Suisse, c'est tout, quoi, donc vous suivez pas notre portefeuille, mais le portefeuille permanent Suisse, donc il serait bien qu'il y ait une espèce de petit onglet, qu'est-ce que vous devez faire si c'est un portefeuille permanent Suisse, voilà.
Cela dit, j'en profite pour vous dire aussi aux personnes qui me posent la question souvent en me disant, mais je suis québécois, est-ce que l'Université de l'Épargne peut...
On fera un portefeuille.
Non, mais ça, là, pour l'instant, à partir du moment où on est dans une gestion portefeuille de Brown avec les quatre cadrans, et que là, on est sur des ETF qui sont pour partie asiatique, pour partie énergie, l'or, ma foi, c'est l'or, Et que on n'est pas vraiment sur des valeurs françaises. Vraiment, tu peux les toucher du Québec. Hein, j'imagine
absolument
que.
Pareil. Non, mais ce sera également pareil. Le Québec pourra se faire sans. L'idée, c'est que vous ayez le Québec, les États-Unis, la Chine, je sais pas quoi, Hong Kong, l'Angleterre.
Une fois que t'as compris la structure,
la logique, ben, tu te fais ton portefeuille permanent, local, et puis tu le fuis tranquillement. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est la façon dont nous gérons. Nous, on essaie de vous donner celle qui nous paraît, bon, c'est peut-être la moins risquée, la plus rentable, etc. Mais si vous voulez retourner au modèle de départ, le portefeuille brand, ben vous aurez tous les portefeuilles brand dans lesquels vous pourrez piquer celui que vous voulez, dans lequel vous voulez mettre de l'argent. Quoi.
Alors, j'avais d'ailleurs une question d'un autre internaute, que je l'ai vu au début, qui demandait, en gros, oui, je me sens pas à l'aise, et ça je peux le comprendre, en tant que Français, puis il y en a qui doivent rester dans leur PEA parce que fiscalement, ils veulent l'enveloppe fiscale. Est-ce que je peux rester sur des actions type Siemens, Schneider, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui,
ce que j'ai dit aux gens, c'est que vous pouvez rester là-dessus. Vous avez un certain nombre de grandes actions industrielles françaises que vous pouvez foutre dans votre PEA. Vous avez Schneider, Air Liquide, Total, Saint-Gobain.
Total qui donne du 7%, on le dit à chaque fois.
C'est pas plus mal. Saint-Gobain, vous avez aussi... comment ça s'appelle Le Grand, qui est une grande société électrique aussi. Donc, vous en avez quand même 6 ou 7 comme ça. Vous pouvez les coller dans votre portefeuille, et là, il n'y a aucun problème. Ça remplace, en quelque sorte, les 25% d'actions en Asie, quoi.
Oui, c'est ça.
Vous pouvez les mettre à la place de.
À la place de. Si vous n'avez pas envie de jouer l'Asie. Alors, nous, on a deux choses. On a donc le portefeuille avec les valeurs pétrolières, parce qu'on croit aussi.
Parce qu'il y a 25% en énergie, 25% en Asie.
Voilà. Et 25% en Asie, mais si vous voulez remplacer l'Asie par. Ou si vous n'avez pas envie de jouer le yen, après tout, ils peuvent faire l'Asie et faire valeur industrielle à la place du yen aussi.
Oui, mais ça donnerait pour il y aura plus d'actions et moins
vrai.
De cash. Donc il sera plus volatile.
C'est vrai, il sera plus volatile.
Plus volatile, il aura sans doute une performance supérieure, mais il sera plus volatile.
Ouais.
Donc toucher la volatilité, c'est...
Oui, ça fait peur. Là, encore une fois, il faudrait revenir. Si vous avez envie d'entendre parler de ça, Charles a donné une interview à cette chaîne qui est sous-jacente de Amundi.
Martingale.
Et où il explique très bien... ça à nouveau, c'est-à-dire comment construire un portefeuille de Brown et comment éviter la volatilité dans un portefeuille. Donc je vous y réfère. C'est une chaîne qui débute, qui s'appelle Martingale, et il a repris ça et j'ai trouvé que c'était très bien expliqué. C'est pas parce que c'est lui, mais c'était très bien expliqué. Non, mais en reprenant les 4 cadrans et pourquoi c'est important. Alors, revenons un petit peu sur notre vieille Europe, parce que tu as commis cette semaine un billet sur la France.
Oui, alors là, c'est-à-dire que je suis arrivé à un point de non-compréhension en France. C'est-à-dire qu'il y a quelques... ce que je voudrais dire, c'est que si vous voulez vraiment vous sentir mal sur la France, vous écoutez un garçon que j'aime bien qui s'appelle Marc Toiti.
On aime beaucoup. Alors, beaucoup d'entre vous nous disent, mais pourquoi vous faites pas un entretien croisé? Mais oui, on le devrait. Il faut qu'on prenne attache avec Marc Toiti un jour ou l'autre.
Et je l'interroge tranquillement. Il fait vraiment un boulot parfait.
Tous les jours. Hein.
Il prend les données telles qu'elles sont sorties, les met en ratio, etc. Donc, moi, j'ai tendance à essayer de peindre des trucs un peu plus longs, etc. Mais si vous voulez suivre au jour le jour l'économie française, Marc Toiti, c'est sans doute ce qui se fait de mieux. Donc, ce que vous dit Marc Toiti, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se péter la gueule comme rarement dans notre histoire. Et vous avez la Banque de France et la Commission européenne qui vous dit que la France va croître de 0,6% par an en France. Mais ils sont fous, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on arrive à un tel déni de réalité. Alors, t'as les fadas à l'Assemblée qui vous parle des retraites en disant je sais pas quoi que...
Non, ou mieux, parce que je me suis
Il faut taxer les riches.
Non, je me suis frité un peu, encore une fois, avec Jean-Philippe Tanguy, parce que tu sais, quand on était chez DLF, on en avait déjà parlé. C'est que ils adorent parler de création de pouvoir d'achat. Et à chaque fois, on leur dit, mais arrêtez avec votre notion complètement idiote de création de pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas créer du pouvoir d'achat si vous ne créez pas de la croissance, et vous ne pouvez créer de la croissance si vous foutez, un, bien vos gros doigts gras en dehors de l'économie, et que vous... créer les conditions pour que les entrepreneurs puissent la créer, cette croissance.
La croissance n'existe pas, c'est la création de valeur. S'il n'y a pas de valeur créée en France, il n'y aura pas de croissance.
Donc il n'y aura pas de création de pouvoir d'achat. Alors, si leur idée de sauver le pouvoir d'achat, c'est...
D'emprunter plus ?
Non, ou c'est d'organiser comment les cotons-tiges et le coton hydrophile va être réparti entre Pierre et Paul.
Mais ça marche pas.
Ils veulent compter le nombre de cotons hydrophiles. Attention, 365, et on les donne. Mais tu dis, mais c'est pas une organisation de la misère, l'économie. C'est de se mettre en
Encore
place
une
pour
fois,
essayer d'avoir
une
croissance.
Il faut revenir à la liberté. Mais je vais vous expliquer les retraites, ça m'énerve beaucoup. Parce que bon, ça fait 14% du PIB, les retraites. Bon, très bien. Vous voulez maintenir les retraites à 14% du PIB. Bonne idée. Mais si le PIB baisse de 2 ou 3%, ça veut dire que ces 14% deviennent 15 ou 16% du PIB.
Mathématiquement.
Comme le PIB va baisser de 2 ou 3%, ça veut dire que le poids des retraites va monter et que donc il va falloir...
Proportionnellement.
Et donc ça veut dire que tous ceux qui travaillent, il va falloir les imposer plus.
C'est littéralement le dessein du tiers-État avec la bourgeoisie
de plus en plus. Le pauvre tiers-État, maintenant, il a le nez dans les chaussures.
Autant suspend ton vol.
Donc vraiment, ce que j'essaie de dire, c'est ce que vous proposez comme solution, le maintien de 14% d'un PIB, vous faites l'hypothèse que le PIB ne va pas baisser. Or, il va baisser. Donc, vous êtes complètement fou. Vous pensez qu'il y a 14% de Picsou qu'on peut prendre et qu'on peut distribuer aux autres. Mais non, ces 14% deviendront 15%, 16%. Et donc, tous les types compétents vont se barrer et tous les autres vont continuer à rentrer. Donc, automatiquement, le niveau de vie va s'écrouler. Et je raconte toujours l'histoire de ton frère. Quand il a commencé à travailler il y a 20 ans, il avait été embauché par la BNP. Il avait fait son stage à la BNP dans une espèce d'école qu'ils ont à la campagne là-bas en France. Il était sorti premier, je crois d'ailleurs. Ils étaient 200 ou 300. Et ils lui ont dit, bien entendu, vous restez travailler au siège.
Au siège.
Il a dit, bien entendu, rien du tout. Je vais vous m'embaucher si vous faire rien
siège
à Singapour.
Siège qui était très joli, cela dit, à côté de la place du marché Saint-Honoré à Paris, joli, avec un très bel escalier comme ça.
Il lui
ça.
Restait 150 euros par mois pour vivre une fois qu'il avait tout payé, alors que quand il allait à Singapour, il en restait 5000. Donc, il a dit, ça vous fait rien, moi je pars à Singapour. Donc, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le truc, je reste en France parce que je sais pas parler l'anglais, ça marche plus. Si t'es un bon ingénieur, tu sais parler l'anglais.
Encore
regarde
une
tes
fois,
deux filles.
On l'a vu. Non, mais alors, bon, moi, mes deux filles, effectivement, ouais, j'en ai une qui a fait un diplôme impérial de chimie biomoléculaire. Mais elle m'a dit tout de suite, maman, je ne présenterai pas Polytechnique parce que, au grand dame de son autre grand-père qui a dit, mais enfin, dans la famille, tous les polytechniciens, son père était polytechnicien. Et compagnon de la libération. Mais elle a dit, elle a fait l'analyse en disant...
Si je dois faire 3 ans de préparation et ensuite 2 ou 3 ans de polytechnique, je vais commencer à faire autre chose que servir des cafés à 25-26 ans. Là, elle a 22-23 ans, elle travaille déjà dans une société pharmaceutique. Donc, si vous voulez, c'est plus du tout la même idée. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour faire revenir ces dizaines de milliers de Français qui sont extraordinaires comme étant en France. Et donc, la seule façon... c'est d'arrêter de taxer le capital et il faut taxer la consommation. Et il faut faire surtout baisser les dépenses de l'État pour pouvoir baisser les impôts. Donc, toute leur histoire de maintien du pouvoir d'achat, c'est la ligne Maginot, quoi. Les Allemands vont pas arriver face à Strasbourg. Hein. Ils vont arriver par un côté où on les attend pas. Et je le connais, ce côté. Donc, c'est les deux choses qui m'énervent en France, c'est cette extraordinaire refus des autorités publiques d'avouer ce qui se passe vraiment en France, parce qu'ils craignent que ça déclenche une panique, mais ça va arriver de toute façon. Donc un refus de regarder la réalité en face. Non, les Allemands ne sont pas passés par les Ardennes, non, c'est de la blague. Si, ils sont passés par les Ardennes, ils arrivent d'ailleurs. Et à ce moment-là, on se précipite tous à Notre-Dame, tous ces bons radicaux, francs-maçons, socialistes, etc., qui allaient chanter à Notre-Dame en 1940 « Sauver, sauver la France », tu sais. Parce qu'à ce moment-là, c'est la panique, ils sont tous... C'est marrant, tous ces gens qui veulent être quelque chose, et quand les choses deviennent graves, ils se rendent compte qu'ils auraient pas dû, qu'ils avaient pas la capacité. Je crains que ça n'arrive à Macron. Et de l'autre côté, vous avez un rêve, une espèce de croyance que le rôle de l'État, c'est de... Il y a 100 qui est créé tous les ans, comme ça, miraculeusement, et donc l'État va en prendre 30 et en donner à celui-là, puis 2, 14, puis le donner à celui-là, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc on a... Les deux parties de l'équation en France, la haute fonction publique et la fonction politique, vivent dans des espèces de rêves qui sont complètement impossibles, qui sont complètement idiots.
Et qui sont rendus d'autant plus idiot qu'ils sont tous nourris aujourd'hui d'une surmédiatisation. C'est-à-dire qu'on a des personnes comme Gabriel Attal qui montent des dossiers, on l'a vu hier, pour nous expliquer qu'il fallait, par exemple, interdire le voile avant 15 ans. T'as envie de dire pourquoi 15 ans ? Pourquoi ? Si on décide que la laïcité est importante, pourquoi mettre un seuil à 15 ans ? Pourquoi ? Enfin, rien ne va, mais nous savons tous que ce sont des effets d'annonce sur lesquels ils vont rebondir pour faire une télévision, de la même façon qu'on lance un livre pour faire une télévision. Et tout ceci ne veut rien dire et on va faire du papier, on va faire du...
Ils croient tous que l'action est dans la parole. Mais non, c'est pas parce que vous allez dire que vous allez relancer le programme nucléaire que vous allez relancer le programme nucléaire. S'il n'y a pas les capitaux, s'il n'y a pas les ingénieurs, etc., et ben, le programme nucléaire, il ne va pas se lancer tout seul. J'ai vu que je crois dans 3 à 4 ans, le principal exportateur et de loin de centrales nucléaires, ce sera la Chine, qui se retrouve avec des centrales nucléaires qui ont été conçues en France. Et donc on se dit, mais quand est-ce qu'on va cesser d'avoir... C'est vraiment le gars, tu sais, comment s'appelait celui qui arrivait, le joueur de flûte avec tous les enfants qu'il suivait là.
Oui, c'était le... Hamelin.
Le joueur de flûte, oui, celui qui emmenait tous les rangs. Et ben là, si vous voulez, les gens ont l'impression que s'ils jouent la flûte, les gens vont les suivre en étant contents, on est contents.
Mais les gens suivent, certains
mais
suivent.
Les journalistes suivent, mais la population de moins en moins.
Oui, bon, enfin, quand il y a des sondages qui sont faits. Alors, je sais pas, moi, je ne suis jamais interrogée.
Non seulement ça, mais quand, par exemple, quand on me dit qu'il y a 90% des Français qui sont persuadés que le prochain ce sera Monsieur Philippe, je me dis, alors vraiment, c'est qu'il y a 90% des Français qui sont les rois des cons.
Non, alors, je vais te dire, notre grande analyse avec Léonard sur la question, c'est que, en définitive, les gens ont un tel mépris pour la classe politique que c'est un peu celui qui n'a pas parlé qui a raison.
Oui, c'est pas impossible.
Donc, celui qui ne dit rien et qui ne fait rien a une prime au mérite parce qu'il nous a moins cassé les pieds que les autres.
C'est pas faux.
Et pour l'instant, comme il ne s'est pas encore remis en politique, hein, qu'il est un peu, il fait un petit peu de télé, ça et là, les gens se disent, oh, bah, il est bien cet homme-là, il porte beau, il est grand, et puis il s'est fait réimplanter des sourcils, donc tout va bien. Mais la minute où ça va recommencer, et qu'il va y avoir un peu de bataille à droite et à gauche, ou des débats, je ne sais pas si les sondages vont rester aussi.
Ce que j'essaie de dire dans cet article de lundi, c'est qu'on était dans la phase aujourd'hui où l'accélération de l'effondrement va arriver, quoi. C'est-à-dire que pendant longtemps, on mettait de plus en plus de dettes pour cacher l'accroissement de la misère, donc on était comme ça, comme ça, comme ça. Mais maintenant, comme la dette devient plus chère, la dette passée devient plus chère à payer que la dette nouvelle qu'on peut mettre, etc., donc ça veut dire que le niveau de vie baisse. Donc on va vers une baisse du niveau de vie, mais de 1% par an, ce qui s'est jamais produit dans l'histoire de France.
Est-ce que tu pourrais réexpliquer aux gens justement ce que tu qualifies comme une fuite devant la monnaie ?
Ben, là, c'est même pas une fuite devant la monnaie, c'est simplement que tu as emprunté de la dette qui te donne du 3%, allez, hein. Bon, 3%, bon. La moitié de cette dette est détenue à l'étranger. Donc, ça veut dire que avec 3%.
Oui, attends, je te coupe deux minutes. C'est qu'il y a des zozos sans formation politique qui font leur malin en disant « Oui, Madame Thévenot, personne ne sait qui détient la dette. » On sait très bien qui détient la dette. Bercy ne veut pas communiquer dessus, mais on sait très bien que pour 50% et plus, elle est à l'étranger, détenue en partie, entre 15 et 18% par des Chinois, par exemple, et puis le reste par des Américains, des fonds de pension hollandais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je ne veux plus entendre de « on ne sait pas qui détient la dette » par des zozos.
L'essentiel, c'est qu'il y a 50% qui soient détenus à l'étranger. Bon, c'est ça le truc important. Donc, si le taux d'intérêt sont à 3%, il y a 50% de ces 3% qui vont partir à l'étranger. Non ? Et ça viendra en déduction de la richesse créée en France.
Bien évidemment.
Donc, alors, si on a, mettons, une inflation à 2%, c'est à peu près le cas, une croissance à 1%, ça te fait nominal 3%, ben, il y a la moitié de ces 3% qui sont déjà pris. Et les 1,5% qui restent, compte tenu du croissement de la population, de l'augmentation du chômage, etc., ça va pas aller à ceux qui bossent. Donc, je sais qu'à partir de maintenant, ceux qui bossent vont avoir un niveau de vie qui va baisser. Puisqu'il faut payer et la dette, et ceux qui bossent pas, et l'État. Donc je dis aux gens, vous vous rendez pas compte, mais au bout de 2, 3, 4, 5 ans, s'il y a une chose qu'on a appris dans l'histoire économique, C'est, il y a ce qu'on appelle l'effet de cliquer. Les gens acceptent, sont très contents que leur niveau de vie monte. Si ça part de très bas et que ça monte tous les ans, ils sont très contents. Même si ça reste très bas, ils sont très contents. On voit très bien que, par exemple, en Inde, il y a des tas de gens qui ont encore des salaires de misère et tout, mais dans la mesure où ils montent chaque année, ils ont l'impression que ça va de mieux en mieux, ils sont contents, quoi. Mais par contre, ce qu'on accepte...
C'est humain, tu te dis encore un dernier effort et m'acheter ceci.
Chaque année.
Oui, c'est ça. Bah, oui,
tu peux acheter plus de choses. Mais par contre, si ton niveau de vie commence à baisser comme ça, c'est là où les révolutions se passent, parce que les gens n'acceptent pas du tout d'avoir un effet de cliquer. Non, je ne peux pas accepter que mon niveau de vie baisse.
Premièrement, et deuxièmement, c'est très désagréable. Plus tu vieillis, plus d'avoir un niveau de vie qui est moins bien que quand tu étais plus jeune. Parce que autant quand tu es jeune, c'est pas grave d'être pauvre, parce que tu te dis c'est pas grave, il y aura des lendemains qui chantent et puis tu es jeune, donc tu t'en fous. Mais quand tu vieillis, c'est quand même beaucoup plus désagréable de te dire ah bah, je peux pas me payer ça alors que j'en ai besoin.
Je peux pas me chauffer, je peux pas me.
Voilà, tu te dis ah non, déjà que je suis vieux,
que
j'ai mal partout.
Et tu peux pas aider tes enfants.
Voilà.
Donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où je sais que le niveau de vie en France a commencé à baisser, va continuer à baisser pour ce qu'on peut appeler le futur visible. Donc, ça veut dire que les recettes fiscales vont baisser, puisque
mathématiquement,
la création de valeur aura baissé, les recettes fiscales vont baisser, donc le déficit budgétaire va s'accroître, donc la dette va s'accroître, donc on aura
le service de la dette va s'accroître aussi.
Donc on est rentré dans une espèce de machin qui est une machine infernale. Vous savez, c'est comme l'écureuil dans sa petit cercle là qui se met à courir, et plus il court vite, et plus il peut avoir marche arrière, quoi. Donc aujourd'hui, les gens travaillent de plus en plus, et c'est leur niveau de vie baisse. C'est pas acceptable. Donc on est dans une situation qu'a connue l'Argentine.
Voilà, alors justement, j'en parlais avec un très sympathique membre dans mes DM, qui me disait, mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut pour que l'Argentine arrive? Qu'est-ce qu'il va falloir comme déclic aux Français? Parce que le message ne viendra pas des politiques, qui même quand ils disent des mots libéraux...
Il y en a pas qui le disent. Il y a ce brave Lisnard, mais c'est à peu près le seul. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je ne sais pas trop, mais à un moment... Les 50% qu'ils nous ont prêtés vont dire, ça vous fait rien de me rembourser ma dette? Et on pourra pas. Et de toute façon, je vais pas souscrire à votre dette nouvelle. Donc à ce moment-là, l'épargne française devra être mise à contribution, non pas à 50%, mais à 100% pour couvrir le déficit. Ce qui veut dire qu'il faudra aller chercher l'épargne des Français.
C'est ce dont on a peur, et c'est bien pour ça au début qu'on avait, c'est vraiment pour ça à l'origine que j'avais créé l'université de l'épargne sur Sénat de Pusson, je me suis dit ces crétins,
il faut le faire pour aider les gens.
Ces crétins vont choper l'épargne des Français, et honnêtement, dès le début ça a été ma grande crainte de me dire ils vont venir pour le pognon.
Et ils peuvent pas faire autrement, donc ça veut dire que à la place d'avoir vos airs liquides qui vous donnent du 7, 8, 9, 10% par an, vous aurez une obligation d'État qui vous donnera zéro. Donc, votre niveau de vie baissera encore plus, puisque votre capital, votre épargne ne sera pas bien rémunérée. Parce que s'il la rémunérait à leur prix, il n'y aurait pas de problème. Donc, ben, ça veut dire, si vous voulez, que, encore une fois, il faut absolument que vous organisiez votre épargne. Vous ne pouvez pas rester comme un lapin dans les...
Dans les phares d'une voiture, un soir de 24 décembre.
En attendant qu'elle vous roule dessus, quoi. Mais c'est pas possible. Donc réfléchissez, faites quelque chose. Moi, c'est
ce que j'essaie de dire. Surtout si vous avez mis quelques sous à gauche et que vous essayez de vous en sortir, posez-vous les bonnes questions. Je sais que parfois vous pouvez vous dire c'est embêtant, j'ai pas envie de prendre du temps, je sais, on dînait récemment avec un copain de ma sœur avant d'aller au théâtre, le doc, et son épouse. Ils sont tous les deux médecins, elle est radiologue. Et il disait, je n'ai pas envie d'y passer du temps. Je bosse, il est professeur à l'hôpital. Il s'occupe de chirurgie pédiatrique. Voilà, il n'a pas envie de consacrer plus de 10 minutes le week-end sur ça. Mais ma foi, quand vous avez 3 sous à gauche, c'est aussi une réflexion quand même à tenir. Parce que,
Et ensuite, comme ça, vous apprenez sur le... Vous savez qu'au bout d'un certain temps, si vous faites ça, vous saurez qui ment et qui ne ment pas dans les hommes politiques, etc. Ceux qui... Il y a des gens qui mentent et qui ont une idée de vous prendre pognon, il y a des gens qui ne mentent pas, qui essayent de vous aider. Et donc, vous ferez très rapidement la distinction. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que vous gériez votre épargne, parce qu'à ce moment-là, vous sauriez qui est le menteur dans l'histoire.
Et vos conseillers de la Société Générale, de Paribas, ils peuvent rien faire parce qu'eux, on leur donne des préformats, ils doivent vous placer, et ils ne le font pas de mauvaise foi la plupart du temps, soit ils sont enracinés, soit ils sont obligés, ils sont tenus par ce que leur banque leur dit de faire. Et quand Charles était au conseil de SCOR, on leur disait qu'ils ne pouvaient pas acheter des actions. On leur disait qu'en revanche, en face des obligations, il n'y avait rien à provisionner. Et en revanche, là, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, désormais, l'or est redevenu un actif en face duquel il n'est plus besoin de provisionner, ce qui n'était pas le cas avant.
Oui, c'est ça, très nouveau, ça.
C'est très nouveau et ça veut quand même dire quelque chose.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de dire à la BRI, dites les gars, ça suffit les bêtises sur l'or, il faut que vous nous laissiez en acheter, sans ça, ça va mal se passer, on va sortir de la BRI.
Alors, ça sera ma dernière question, parce que là, on parle de l'or et j'ai eu, encore une fois, beaucoup de questions sur le Bitcoin et les monnaies alternatives. Et quel est ton sentiment?
Voilà,
qu'est-ce que tu
penses
aujourd'hui?
Ce que j'ai dit depuis le début, c'est que le Bitcoin, c'est une tentative de créer une monnaie qui soit une réserve de valeur, qui ne soit adressée ni sur un État, ni sur l'étalon or, mais sur l'acceptation de la communauté qui s'en sert. Donc, c'est la seule. Donc, le seul truc qui soit, si j'ose dire, techniquement une monnaie, c'est le Bitcoin. Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'on essaye de faire une monnaie qui soit acceptée par la communauté sans être soit une preuve de travail, soit une preuve de force. C'est-à-dire, si t'as la marine américaine, t'envoies tes bateaux s'ils acceptent pas le dollar. Bon, à ce moment-là, t'acceptes le dollar.
Oui, tu acceptes. Aïe. Tu l'aimes, mon dollar? Oui, je l'aime.
Et de l'autre côté, la preuve de travail, c'est l'or qui est du travail qui a réussi.
C'était Aristote, on en a parlé.
Donc, vous avez ces deux. Et là, on dit non. Donc, c'est complètement en conformité avec les développements scientifiques de l'intelligence artificielle de créer une communauté qui acceptent librement de faire des échanges entre eux dans une monnaie qu'ils ont tous accepté librement. Donc c'est une forme de démocratie directe. C'est plus l'État qui détermine le régime de la monnaie, c'est chacun des participants. Et c'est assez rigolo comme idée, je crois que ça peut marcher. Mais c'est pour ça que moi, c'est pour ceux qui s'intéressent à ce genre de questions, je mettrais dans les portefeuilles 25% d'or, ça fait longtemps qu'on le dit, mais je mettrais 20% d'or et 5% de
Bitcoin. Alors, le problème de Bitcoin, c'est que si vous êtes débutant, c'est que... Vous allez avoir des arrêts du cœur parce qu'il y a ce qu'on appelle une extrême volatilité. Et donc, la volatilité, ça veut dire que... Bon, là, par exemple, Bitcoin est très bien. Il est à 100 000. Ouais, enfin, ça se passe très bien, mais... il y a eu un moment où il avait baissé de moitié par rapport à aujourd'hui. Mmh. Donc, vous allez avoir des arrêts du cœur. Léonard a eu des arrêts du cœur, sauf sur son fartcoin qui se porte.
C'est pas sérieux. Donc, il y a toute une série de monnaies qui sont pas sérieuses là, qu'il faut pas utiliser, sauf si vous voulez rigoler. Mais vous y mettez un petit peu d'argent comme ça, là. Donc, grosso modo, vous savez, quand... quel est l'étalon de mesure dans le domaine de la vitesse, hein? C'est la vitesse de la lumière. Boum. Donc, vous mesurez tout par rapport à la vitesse de la lumière. C'est l'étalon. L'or, c'est la vitesse de la lumière du métier financier. Si quelque chose baisse par rapport à l'or, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit « j'ai gagné plein d'argent en bourse à New York depuis 5 ans ». Je leur dis « bravo mon gars, mais combien t'as fait en or ?»
T'as joué l'indice.
Combien t'as fait en or? T'as été baissé de 20%. Donc, tu veux dire que t'es très content d'avoir pris des risques considérables et d'avoir fait 20% de moins que si t'en avais pas pris, que tu t'es mis en or sous ton pommier normand. Donc, je dis, faites attention parce que vous avez l'illusion monétaire. On va vous expliquer, vous gagnez plein d'argent simplement parce que la monnaie dans laquelle vous avez enregistré cet actif se pète la gueule. Mais ça veut pas dire que ça monte. Ça veut dire que, oui, on va vous donner de plus en plus de signes monétaires. C'est l'histoire du gars qui se réveille C'était il y a quelle histoire dans la grande inflation dans les années 70. Tu sais, il se réveille après un long coma à l'hôpital. Il téléphone à son broker et le broker lui dit, alors IBM, c'est 30 millions de dollars l'action. Xerox, c'est 20 millions de dollars l'action. Et il dit, je suis moyen, j'ai bien monté, je suis content et tout. Il y a le téléphone qui appelle en disant que vous pourriez mettre 40 millions de dollars en pièces parce que l'inflation était montée. Donc, il y a une partie importante des hausses qui est du pipeau. C'est pour ça que moi, je mesure tout, la valeur en or ou la valeur en pétrole. C'est tout, parce que comme ça, je comprends. Je me dis, avec ça, je peux acheter plus de pétrole ou plus d'actifs dans le futur. Donc, je mesure tout en or, parce que comme ça, je tombe pas dans cette illusion monétaire. Je vois les vrais changements. Donc, ne tombez pas dans les illusions monétaires. Et le Bitcoin, c'est pas mal. Je veux dire, intellectuellement, ça pourrait marcher. Je dis pas que ça va marcher, mais je dis que ça pourrait marcher et ça commence à marcher. Donc, voilà, j'aime bien le Bitcoin.
En tout cas, c'est une communauté sympa. Si vous avez envie d'y appartenir, encore une fois, tu n'as pas de recommandations.
Il y a Richard Détente qui a monté une chaîne spéciale. Donc vous pouvez aller là-dessus et vous former là-dessus, c'est très bien.
Vous former là-dessus et c'est souvent joyeux et des communautés un peu de garçons. Mais
si on est une fille, j'étais très très bien accueilli. Hein.
Oui, je pense. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur l'Université de l'Épargne dont on a parlé, vous pouvez aller sur le site.
Un point important, c'est que toutes les publicités pour Charles Le Gaffe que vous voyez sur YouTube et tout, je vous recommande d'acheter l'action XYZ, c'est des fraudes.
Oui. On le dit souvent.
Je crois qu'on va le dire au début de chaque émission. Toutes ces publicités sont fausses.
Je le dis très souvent sur Twitter. Toutes les communications que vous voyez sur Facebook, sur Meta, donc Instagram et Facebook, sont des fausses. On ne fait aucune publicité. On ne vend aucune action. Il n'a pas tant. Et il n'a jamais recommandé une action en vous disant ça fait. Puis surtout, quand on voit. Puis alors, les mises en page, pardon. Hein. Et puis voilà. Donc surtout, n'oubliez pas, il faut le rapporter. Mais ne pas dire que c'est une personnification d'un tiers, dire que c'est une publicité illicite. Le problème qu'on a avec ça, c'est que je le fais évidemment tout le temps, mais que comme c'est des gens qui prennent des publicités payantes, Meta ferme les yeux parce que eux, ils touchent de l'argent. Donc c'est un peu un cercle sans fin parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils font des publicités qu'ils ne devraient pas. Et puis alors moi, j'ai beau leur envoyer ta pièce d'identité en disant je suis responsable d'autorité de Charles Gave et tout, ils s'en foutent, mais je peux mais souffler dans un violon quoi.
Et en plus, souvent ces comptes sont domiciliés quelque part dans le Zimbabwe ou
voilà au Ghana oriental, voilà.
Et donc avant d'aller les poursuivre, vous pouvez toujours vous brosser. Hein.
Voilà, donc c'est un peu le souci. Voilà, on vous remercie à nouveau de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci beaucoup.